Sèvres. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Gilets jaunes, acte 8. Plusieurs manifestations sont prévues demain partout en France. Le gouvernement dénonce une radicalisation du mouvement. Force restera à la loi, assure Benjamin Griveaux. Dans ce contexte tendu, les tarifs des péages devraient augmenter le 1er février prochain. La ministre des Transports demande aux sociétés d'autoroutes de faire un geste pour les utilisateurs réguliers. Les ONG dénoncent un record de la honte. Cela fait 14 jours qu'un navire humanitaire patiente en Méditerranée, une trentaine de migrants à son bord. Aucun État n'accepte pour l'instant de les accueillir. L'actualité, c'est aussi la grippe. L'épidémie arrive en France, il est encore temps de se faire vacciner. Le dernier Welbeck est sorti aujourd'hui et c'est déjà un succès. Et puis la Coupe de France de foot, 32e de finale, ça commence ce soir. La météo, pas de changement pour demain, nous dira Valérie Darmon. La bourse, ce sera avec Claire Lemaître de boursier.com. Et puis la France bouge, retour ce soir sur les 120 ans de la Maison Berger.
Europe 1.
L'acte 8 est prévu pour demain. Près de deux mois après le début de leur mobilisation, les Gilets jaunes ont l'intention de poursuivre le combat. Des appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux. Après les débordements de ces dernières semaines, le gouvernement réaffirme sa détermination. Écoutez Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement.
Le mouvement dit des Gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Cela, qu'ils soient certains d'une chose, c'est que force restera à la loi.
Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement au micro d'Adrien Beck. Propos scandaleux, lui répond Aïk Chahignan, un gilet jaune.
Benjamin Griveaux n'est pas à sa première sortie extrêmement irrespectueuse vis-à-vis des gens. Ça s'ajoute à la foule haineuse de la déclaration de Macron. Ça fait quand même depuis un mois et demi que tous les Français qui se sont mobilisés dans la rue pour leur pouvoir d'achat sont méprisés et insultés en permanence. Moi, je serai à Marseille demain parce qu'on organise une réunion privée avec plusieurs gilets jaunes venus un peu partout de France pour structurer un mouvement citoyen.
L'idée, c'est de vous regrouper ?
Oui, c'est un travail que j'ai déjà commencé depuis un mois et demi. L'idée, c'est de poser la première base de ce rassemblement.
Du parti politique qui sera aux européennes ?
En tout cas, les européennes, ça va être un moment important et je pense que les Gilets jaunes devront porter leurs revendications. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent avoir une liste ou tout simplement participer au débat ? Ça, c'est encore un petit peu trop tôt pour le décider.
Aïk Chahignan, un gilet jaune qui était l'invité de Mathieu Béliard tout à l'heure dans le Grand Journal du soir. Il sera donc mobilisé demain. Alors, impossible pour l'instant de donner des estimations de chiffres sur la mobilisation lors de cet acte 8 qui se prépare. Ce que l'on peut dire, en revanche, Chloé Triomphe, c'est que le dispositif de sécurité, lui, a été revu à la baisse.
Oui, effectivement, selon nos informations, ce dispositif pour cet acte 8 sera au moins deux fois moins important que lors des mobilisations tendues de fin novembre et encore plus avec celles de début décembre. Moins de forces de sécurité mobilisées, donc, mais aussi moins de moyens spéciaux comme les canins en haut ou les véhicules blindés de la gendarmerie. Il faut dire que le nombre de manifestants qui se rendront sur les différents lieux de rassemblement comme les places symboliques des grandes villes est très difficile à évaluer. On rappelle que ces derniers jours, seulement 2000 personnes restaient mobilisées sur l'ensemble du territoire, mais les samedis, il y a toujours plus de monde. Alors pour la capitale, eh bien la différence cette fois-ci, c'est que pour la première fois, deux manifestations ont été déclarées en préfecture. Le matin, il y en a une sur les Champs-Élysées et à partir de 14h, entre Hôtel de Ville et l'Assemblée nationale, là encore, eh bien les autorités disent qu'elles ont du mal à évaluer le nombre de participants et côté préfecture de police, on indique sobrement que le dispositif sera, je cite, « adapté et adaptable ».
Les explications de Chloé Triomphe. Ce mouvement des Gilets jaunes depuis début novembre s'exprime dans la rue, sur les ronds-points. Il s'exprime également au niveau des barrières de péage. Certaines ont été incendiées, dégradées. Les sociétés d'autoroutes étaient reçues aujourd'hui au ministère des Transports. Il a été question de ces dégradations, mais pas seulement. Les discussions ont porté aussi sur un sujet sensible. Aurélien Fleureau, les tarifs des péages vont augmenter dans un mois.
Oui, cette hausse, on sait qu'elle sera d'au maximum 2% à partir du 1er février prochain et il s'agit d'une augmentation annuelle automatique prévue dans les contrats des sociétés d'autoroutes, mais compliqué de ne pas l'avoir comme la première taxe de l'année 2019 dans un contexte où, avec les ronds-points, les péages sont le symbole du mouvement des Gilets jaunes. Voilà pourquoi le ministère des Transports a demandé aux concessionnaires de faire un geste commercial envers les automobilistes. Principale piste sur la table, la mise en place d'offres promotionnelles pour ceux qui utilisent les autoroutes régulièrement, notamment pour faire leur trajet domicile-travail. De sources proches des concessionnaires d'autoroutes, on estime que ça pourrait représenter 2 millions de personnes. Eux préféreraient une autre solution, ce serait d'allonger la durée des concessions, mais cette piste, qui leur est assez favorable, est écartée par le gouvernement. Donc cet après-midi, les discussions ont débuté et il faudra attendre quelques jours, voire quelques semaines, pour savoir ce que vont proposer les sociétés d'autoroute.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Deux députés La République En Marche ont décidé de porter plainte. Leurs permanences parlementaires ont été taguées et vandalisées. Olivia Grégoire, députée de Paris, et Sacha Houlier, députée de la Vienne, ne sont pas les premiers à faire les frais de ce genre de comportement. Juste avant Noël, la permanence de Guillaume Chiche avait, elle aussi, été visée dans les Deux-Sèvres. La France lance un plan d'action pour lutter contre les traversées de la Manche par les migrants. Les patrouilles vont être renforcées. Hier, la Grande-Bretagne, de son côté, avait envoyé un navire militaire pour contrer ces tentatives. Les deux pays lanceront prochainement un plan conjoint. En Méditerranée, la situation est toujours aussi critique. Les ONG dénoncent un record de la honte. Depuis 14 jours, un navire humanitaire attend, en pleine mer, une trentaine de migrants à bord. Ils attendent toujours qu'un État les autorise à accoster. Écoutez Frédéric Pénard, le directeur des opérations d'SOS Méditerranée.
Ces gens sont restés en mer pendant deux semaines, pour certains d'entre eux, sur un navire qui est petit, dans un temps qui est très mauvais, une tempête annoncée. Deux semaines, c'est un record. Jamais on avait laissé attendre des bateaux aussi longtemps aux portes de l'Union européenne, simplement parce qu'on priorise des enjeux de politique avant de prioriser le devoir d'assistance en mer. Ce que l'on sait, c'est que les gouvernements allemands, français, néerlandais se sont déclarés prêts à les accueillir. On ne comprend pas trop ce qui bloque encore. De toute façon, le débarquement en lieu sûr est une obligation de tous les États qui ont signé les conventions maritimes, c'est-à-dire tous les États de l'Union européenne.
Frédéric Pénard, le directeur des opérations d'SOS Méditerranée, joint par Aude Leroy. Aux États-Unis, Donald Trump se dit prêt à ce que le shutdown dure des mois, voire plus d'un an. Nouvelle provocation du président américain alors que son administration est bloquée depuis plus de deux semaines. Républicains et démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le vote du budget. En cause, le projet de murs que Donald Trump entend construire à la frontière avec le Mexique. Donald Trump qui s'en est également pris à la marque américaine Apple. Fabriquez vos produits aux États-Unis, a demandé le président. Apple qui souffre en ce moment du ralentissement de l'économie chinoise. Carlos Ghosn va comparaître publiquement devant le tribunal. Ce sera le 8 janvier prochain au Japon, à la demande du PDG de Renault. Carlos Ghosn veut obliger le procureur à clarifier plus publiquement les raisons de sa détention. Il est détenu depuis un mois et demi près de Tokyo, soupçonné d'abus de confiance. Et puis toujours à l'étranger, en Suède, les autorités craignent un possible cas d'Ebola. Un patient qui a passé trois semaines au Burundi a été placé en quarantaine à l'hôpital d'Uppsala. Cet homme présente de nombreux symptômes. Il subit actuellement une batterie de tests.
Europe 1. La suite du journal de Marguerite Lefebvre.
Elle arrive avec un peu de retard cette année. La grippe débarque en France. Cinq régions sont en pré-épidémie. La Corse est la région la plus touchée pour l'instant. Et cela ne fait que commencer, prévient le docteur Daniel Lévy-Brul de l'Agence Santé publique France.
Il est probable que dès la semaine prochaine, les régions qui sont en phase pré-épidémique passent en phase épidémique. Et en général, quand plusieurs régions sont en phase pré-épidémique, dans les semaines qui viennent, l'ensemble du territoire national passe en phase épidémique rapidement. D'ici 2-3 semaines, l'ensemble du territoire national devrait se trouver en phase épidémique. Au stade où nous en sommes, c'est-à-dire au stade simplement d'intensification de la circulation du virus, avec encore un grand nombre de régions dans lesquelles le virus circule peu, il est bien entendu encore temps de se faire vacciner.
Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France, il répondait à Mélanie Gomez. À Lille, la direction du CHU a décidé de renforcer la sécurité après deux agressions en deux jours, dont l'une à caractère sexuel. Les victimes sont une infirmière et une aide-soignante. Des rondes ont été mises en place dans le bâtiment. La rentrée des classes, c'est lundi, plus que trois nuits de vacances. Il est temps de remettre vos enfants sur le bon rythme, comme c'est pas toujours facile. Virginie Salmen, notre spécialiste éducation, vous donne quelques conseils.
Alors, pour motiver vos vos enfants à se recaler, ça commence par se lever tôt le matin. Et pour ça, la psychologue de l'éducation, Claire Lecomte, propose par exemple de leur promettre un super petit-déj demain matin avec par exemple des produits qu'ils adorent, des pancakes avec de la pâte à tartiner, des croissants, pour les inciter à se lever. Ensuite, ils seront fatigués et se coucheront plus facilement demain soir. Il faut aussi les faire goûter à 4 heures. Si ce repas était un peu passé à l'as pendant les vacances, c'est important le goûter parce que ça permet d'avoir moins faim le soir au dîner, donc de faire un repas un peu plus léger et donc ça favorise le sommeil. Et puis tant qu'on en a encore l'occasion, l'idéal pour la forme, c'est d'aller jouer dehors au maximum, surtout entre la fin de matinée et l'après-midi, aux heures où il y a le plus de lumière du soleil, vitamine D et grand air. Donc on sort les vélos, les trottinettes, les rollers si possible, ça fait faire de l'exercice et ça permet aussi donc de mieux dormir. Et puis si vos enfants utilisent des écrans, il vaut mieux que ce soit dans la journée, le matin ou l'après-midi, mais il faut tout couper au moins une heure avant de dormir.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Plus de 3 millions d'euros de contrefaçons ont été saisis aux puces de Saint-Ouen mi-décembre. L'opération s'est déroulée le 17 décembre précisément. C'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris aujourd'hui. Des policiers en patrouille ont mis la main sur des milliers de pièces contrefaites. Il s'agissait notamment d'articles de sport. 3 personnes ont été interpellées. Le marché aux puces de Saint-Ouen, qui se trouve au nord de Paris, est considéré comme le plus important marché d'antiquité au monde. Le livre est déjà en tête des ventes sur Internet. Il fait un carton en librairie et pourtant, Sérotonine, le dernier Houellebecq, n'est sorti que ce matin. Un tirage à 300 000 exemplaires et un auteur que l'on n'entend pas, ou presque. Michel Houellebecq a refusé de faire la promo de son livre, mais il a accepté une interview sur Europe 1 il y a 15 jours. Nicolas Caro lui avait alors demandé s'il était conscient de son succès à travers le monde.
Effectivement, il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifié de Houellebecquien qui n'avait pas été décrit avant moi, ça c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Donc ça peut rendre inapte la vie, mes livres. Oui. Bah, disons que ça peut provoquer des ruptures dans un cours de vie. Mais je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai eu ça moi aussi avec des livres. Je ne pouvais pas continuer à vivre pareil. Donc, ouais, c'est une responsabilité lourde. Ça peut être une responsabilité lourde d'écrire des livres. Et je ne vais pas m'y soustraire face à une activité sérieuse.
Michel Houellebecq qui répondait il y a quelques jours à Nicolas Caro. En football, top départ ce soir des 32e de finale de la Coupe de France. Nantes mène en ce moment 2-1 face à Châteauroux. La deuxième affiche ce soir devait opposer Grenoble à Strasbourg. Match reporté à cause du terrain gelé. L'annonce a été faite par le speaker à quelques secondes du coup d'envoi. On ne connaît pas encore la date du report. La Coupe de France qui donne lieu chaque année à de belles histoires. Des petits poussets qui se retrouvent sous le feu des projecteurs. C'est ce qui arrive en ce moment au club de l'Aiglon du Lamentin. La formation martiniquaise affrontera Orléans demain après-midi. Les joueurs sont arrivés en métropole et pas n'importe où. C'est à Clairefontaine qu'ils sont accueillis. Le capitaine Jean-Manuel Nedra ne cache pas sa fierté.
C'est une fierté justement d'arriver dans le centre de formation de l'équipe de France, tout ça. Donc nous aussi on se prête au jeu, on fait monter notre niveau et puis ça nous fait rêver tout simplement puisqu'on a pu voir l'équipe de France à la télé. Donc maintenant c'est nous qui sommes à Clairefontaine, nous faisons une préparation pour un match important. Donc c'est vrai qu'on découvre un peu, on fait quelques photos parce que c'est quand même des souvenirs, c'est pas tout le temps qu'on fera ça. Mais de toujours garder les pieds sur terre parce que l'objectif c'est d'être prêt samedi quoi, pour pouvoir créer l'exploit puisque Orléans est une équipe super. Il y aura nous. Donc on va essayer de créer l'exploit, on va faire le maximum.
Jean-Manuel Nedra, le capitaine de l'Aiglon du Lamentin, au micro d'Axel May. Et puis toujours en sport, la Coupe de France de biathlon a été complètement chamboulée par le manque de neige. La station des Contamines qui devait accueillir les compétitions ce week-end n'est pas en état. Les pistes ne sont pas assez enneigées. Résultat, les biathlètes s'affronteront finalement dans la petite station du col de Porte en Isère. On passe à la météo. Valérie Darmon, le ciel n'évolue toujours pas demain.
Absolument Marguerite, ce qui veut dire que demain matin du nord et de l'est au Lyonnais, le ciel sera couvert avec même de faibles chutes de neige dans les Vosges et dans le Jura. Sur le reste de la moitié nord, c'est-à-dire côté ouest, le ciel va rester très gris, sauf sur la pointe Finistère où les éclaircies seront très très belles du matin jusqu'au soir. Finalement, la grisaille au fil de la journée va se morceler, mais nous ne profiterons pas d'une belle journée. Sur le sud, depuis la Vendée, donc jusqu'au relief alpin, après dissipation des brouillards du lever du jour, le ciel sera bien ensoleillé et puis il va faire froid pour tout le monde. Les gelées sont généralisées avec jusqu'à moins 4 dans le sud-ouest. Des minimales légèrement positives entre 0 et 2 des frontières nord à la région parisienne. Et puis les maximales très peu élevées, 4 à 8 en général. Plus douces évidemment le long de la Méditerranée avec 12.
Merci, c'était la météo de Valérie Darmon. Marguerite Lefèvre sur Europe 1. Europe 1, il est 22h15 et on vous propose, comme tous les soirs pendant les fêtes, de vous replonger dans les moments les plus forts de cette année 2018 en matière de sport. Aujourd'hui, retour sur l'un des plus grands exploits de l'année. Il est signé Kevin Mayer, nouveau maître du décathlon. Le portrait de ce héros des temps modernes avec Corinne Boulou.
Champion du monde en salle l'hiver dernier, Kevin Mayer termine cette saison sur un exploit hors norme, un record du monde. Celui du décathlon, un enchaînement de 10 épreuves, 4 courses, 3 sauts et 3 lancers en 2 jours. Avec 9126 points, Kevin Mayer est le troisième athlète seulement dans l'histoire à franchir la barre des 9000 points après l'américain champion olympique Ashton Eaton et le tchèque Roman Sebrelé. Une autre légende de l'athlétisme, Marie-Josée Pérec, reconnaît avoir été bluffée par la performance du Français de 26 ans.
Il est phénoménal. Et puis, pour moi, le décathlon, en fait, forcément, ça représente les disciplines de l'athlétisme. Donc, de voir ce dieu du stade se déployer comme ça sur la piste d'athlétisme, bah, c'était que du bonheur, quoi. Et puis, je me dis, en fait, il fait redécouvrir en fait, l'athlétisme dans toute sa splendeur. Ça ne peut que faire du bien à notre sport, quoi. Donc, j'ai envie de dire tout simplement, merci, Kevin.
Cette année 2018 aurait même pu être celle d'une triple consécration, sans un couac cet été au championnat d'Europe. Kevin Mayer, champion du monde en titre, vice-champion olympique à Rio, arrive en grandissime favori au championnat d'Europe. La deuxième épreuve, le saut en longueur avec 3 essais manqués, lui est fatale. Il jette l'éponge, mais coche sur son agenda le Décastar de Talence en Gironde. Là-bas, le 16 septembre, Kevin Mayer oublie sa déception allemande de la plus belle des manières.
Ouais, ça a été plein d'ascenseurs émotionnels dans tous les sens. Une année très riche en performances, en déceptions et en résultats, mais c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et je pense que cette déception à Berlin fera vraiment partie de l'histoire de ce record du monde. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait au Décastar.
Et à Talence, vous sentez rapidement que les choses se mettent en place et que l'exploit est envisageable?
Ouais, à Talence, à part le saut en hauteur où ça a été assez chaotique, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune fausse note, aucun moment où j'ai été inquiété de la performance à faire ou quoi. Tout s'est passé comme sur des roulettes et c'est très très rare en décathlon. Mais sinon, j'avais l'impression de réciter une symphonie que j'avais en moi depuis des années et que tout se passait sans aucune fausse note.
Alors est-il envisageable que le maestro Kevin Mayer réédite l'exploit ? Pas impossible, répond-il.
C'est largement possible d'aller rechercher ce record. Plus je vais m'entraîner, plus j'aurai de la marge. Il s'agirait de savoir si je vais réussir à enchaîner aussi bien un décathlon dans ma vie, parce que là j'étais à 97% de mes records, je crois, et je suis le seul à réussir à faire à ce niveau-là. J'ai une certitude, c'est que je vais progresser dans les disciplines. J'ai les clés pour progresser. Je me suis assez bien entouré pour être sûr que, à part un gros accident, je ne vais pas me blesser ou quoi. Mais c'est juste savoir si je vais réussir à être à 97% de mon potentiel qui aura augmenté dans les années futures.
En attendant, après cette période de fête, Kevin Mayer ira chercher le soleil en Floride le 10 janvier pour bien débuter une année qui le conduira jusqu'aux Mondiaux en septembre prochain à Doha au Qatar.
Rétrosport signé aujourd'hui Corinne Boulou. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, on fait un point sur la bourse. Et puis la France bouge, on parlera de la maison Berger avec son président Olivier Sillon.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Marguerite Lefèvre sur Europe 1.
22h18, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, on fait un point sur l'actu de la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Marguerite.
Wall Street retrouve le moral ce soir et termine en forte hausse.
Oui, c'est l'euphorie à Wall Street. Le Dow Jones grimpe de plus à de 700% ce soir, plus 3,29%, 23 433 points. Le Nasdaq aussi se reprend après une séance de déprime hier. Un bond de 4,26% à 6 739 points. Alors plusieurs ingrédients ont dopé les marchés. D'abord les bons chiffres mensuels de l'emploi américain, chiffres très largement supérieurs aux attentes. Autre bonne nouvelle, les discussions commerciales qui ont repris entre les États-Unis et la Chine. Et puis la Fed rassure également le patron de la Banque centrale, Jérôme Powell, promet qu'il va être patient et souple dans ses hausses de taux d'intérêt. Donc tout ça, ça fait monter les marchés. Apple remonte de 4,3%. Mais le titre avait décroché de près de 10% hier après son avertissement. Les plus fortes hausses sont pour Intel, plus 6%, Caterpillar, plus 5,4%, Boeing, plus 5,2% et Microsoft, plus 4,6%. Le pétrole est en hausse, lui aussi, plus 1,8% pour le WTI à près de 48$. Et puis l'euro est stable autour de 1,14$.
À Paris aussi, le CAC 40 s'envole ce soir.
Oui, l'optimisme de Wall Street a gagné, le CAC qui termine la semaine sur un gain de 2,72%, 4737 points. Ça permet à l'indice parisien de combler un peu son retard et de monter de 1,24% sur la semaine. Les grandes gagnantes du jour, ce sont les valeurs liées au pétrole. Total progresse de 2,5%, plus 5,4% pour Technip FMC et même plus 7,8% pour Vallourec. Les bancaires aussi ont été recherchés. Crédit Agricole avance par exemple de 5,2%. Et c'est bien aussi pour l'automobile. Renault prend 3% et Renault plus 5%.
On termine clair avec le secteur des médias qui est à la traîne ce soir.
Avec un repli de 1,7% pour le titre TF1 et de 2,2% pour M6. Les deux titres sont plombés par une note de Morgan Stanley. La banque américaine conserve son avis négatif sur les valeurs des médias en Europe. Elle pense que les investissements nécessaires dans les services de vidéo à la demande vont peser sur les résultats. La semaine se termine bien en Europe. À Londres, le FTSE clôture en hausse de 2,2%. Francfort bondit de 3,4%, Bruxelles plus 3%, Madrid plus 2,5%, Milan plus 3,4%, Amsterdam plus 2,4% et le CAC 40 remonte de 2,7%, 4737 points.
Merci, c'était Claire Lemaître de Boursier.com. 22h21 sur Europe 1, l'heure de retrouver comme tous les soirs cette semaine un extrait de La France bouge, l'émission de Raphaël Duchemin tous les jours entre 12h30 et 14h. Ce soir, il est question de lampes, pas n'importe lesquelles, les lampes Berger, lampes à catalyse qui diffusent du parfum. Raphaël Duchemin recevait il y a quelques semaines Olivier Sillon, le président de la Maison Berger.
Bonjour Olivier Sillon.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de la Maison Berger, on dit toujours Maison Berger ?
En fait, depuis
Maison
peu,
Berger Paris.
Depuis peu, on dit Maison Berger Paris.
Alors au départ, on disait lampe Berger, hein, une petite lampe qu'on connaît tous, qui a été imaginée pour purifier l'air dans les hôpitaux, les sanatoriums, comme on disait à l'époque. C'était au début du XXe, c'est ça ?
Oui, en 1898, Maurice Berger, préparateur en pharmacie, a inventé le principe de catalyse, donc pour purifier et assainir.
Parce qu'on lui demande ?
En fait, à l'époque, il y avait un vrai problème de salles d'opération qui n'étaient pas purifiées comme elles peuvent l'être aujourd'hui. Et Maurice Berger a inventé ce principe de catalyse pour éviter les bactéries, les germes et rendre les opérations plus saines.
Alors le principe, il est assez simple. Il y a un réceptacle, on va dire comme ça, puis à l'intérieur, un brûleur et un parfum qui se dégage. C'était comme ça dès le départ ?
Alors au départ, il n'y avait pas de parfum. Il n'y avait que ce liquide qui est en fait de l'alcool, qui va permettre d'alimenter le brûleur et de garantir une température suffisamment élevée pour qu'il fasse office de catalyse et qu'il casse les grosses molécules, soit pas saines, soit malodorantes. C'est pour ça que ça supprime les mauvaises odeurs. Et Maurice Berger s'est ensuite assez rapidement rendu compte que, au-delà de purifier, on pouvait également parfumer avec exactement le même système. Et donc la première lampe qui parfume, celle-ci, et qui ne fait pas qu'assainir, est arrivée en 1905.
Et puis ça se démocratise aussi très vite, hein, dès qu'elle arrive, parce qu'il y a des grands noms qui s'en emparent, qui on peut citer Chanel, Cocteau.
Cocteau, Picasso, Sagan, voilà un certain nombre de gros fumeurs peut-être, dirons-nous, oui. Qui avaient besoin d'assainir et de purifier leur air après avoir fumé leurs cigarettes. Et donc ils se sont exposés effectivement avec la lampe. Et puis un certain nombre de grands designers aussi ont pris l'objet pour le rendre tendance, pour en faire parfois des objets d'art, comme Armand, Inès de la Fressange, Chantal Thomas et un certain nombre d'autres.
Et puis petit à petit aussi, vous avez élargi la gamme des parfums. Vous en avez combien aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a 60 fragrances.
Oui.
Et on en lance une dizaine par an.
Et à l'époque, il y en avait combien au départ ?
Alors à l'époque, il y en avait quand même beaucoup moins. Et puis il y avait des fragrances qui étaient plus directes, c'est-à-dire qu'on était sur des mononotes. Et depuis maintenant quelques années, on a intégré un nez en interne dans l'entreprise. Et en fait, on applique au parfum d'intérieur les méthodes qui sont utilisées pour le parfum corporel. Donc on est sur des choses qui sont plurielles, avec une note de tête, une note de cœur, une note de fond, qui font des parfums plus raffinés, plus complexes.
Alors dites-moi, il y a eu un moment où la lampe Berger a été moins appréciée, moins aimée par les consommateurs? Il y a eu un petit trou d'air?
Il y en a eu de nombreux. Elle a suivi des tendances, des périodes. Elle a été très fashion quand elle a été portée par des gens qui ont su la rendre populaire. Donc dans les années 30, à l'époque Art déco, elle était extrêmement populaire. Dans les années 80, de nouveau, parce qu'encore une fois, ces grands noms comme Armand se sont emparés de l'objet pour en faire des choses formidables. Et on essaie de renouer avec ce passé glorieux.
Parce que là, donc c'est un anniversaire et il y a une lampe anniversaire qui est avec nous dans le studio d'Europe 1, qui est habillée, si j'ose dire, par Lolita Lempicka.
Alors non, ça fait partie de nos modèles de fin d'année. C'est pas le modèle Lolita Lempicka, mais effectivement, on a créé toute une collection avec cette formidable créatrice à l'occasion de l'anniversaire de son premier parfum qui s'appelle Mon Premier Parfum. Mmh. C'est ses 20 ans à elle et nos 120 ans à nous. Et donc, on a créé une collection complète, mais pas simplement avec des lampes. On a fait des tas d'objets parfumants. Donc, on a fait des bouquets parfumés, on a fait une bougie parfumée avec de nombreuses couleurs, en reprenant ce thème de Mon Premier Parfum, tant sur la fragrance que sur le design.
Elisabeth,
vous avez donc 120 ans. Vous avez su prendre le virage du digital. Vous êtes en ligne, vous êtes sur Instagram, vous restez confidentiel.
Alors, très objectivement et très récemment, on a pris ce virage depuis maintenant quelques mois.
Avec alors, un site de e-commerce qui a démarré au début du mois aussi.
Exactement, c'est le site maisonberger.fr a fait peau neuve depuis une dizaine de jours. Et puis effectivement sur les réseaux sociaux, alors on est assez présent depuis longtemps sur Facebook, mais on a en fait des produits qui sont, excusez-moi le néologisme, mais très instagrammables, avec des photos, des mises en situation. Et donc c'est assez sympa d'utiliser ce média, a fortiori quand on a des aficionados, des passionnés de nos produits. Il y a un club de collectionneurs, il y a des gens qui adorent Maison Berger Paris au travers de la lampe Berger, c'est vrai.
Et je précise que vous en faites 800 000 par an de ces lampes. Elles sont fabriquées ici en France par 150 personnes, toujours sur le site de départ, hein, finalement, là, toujours en Normandie. Et qu'il y a quelque chose qu'il faut signaler, c'est que l'année prochaine, vous allez lancer un musée interactif.
Exactement. Voilà, on a la volonté de faire un peu de tourisme en Normandie autour de nos produits. Et donc, c'est un très beau projet qui est porté par les équipes pour faire valoir l'histoire de l'entreprise et puis nos produits.
C'est l'entreprise qui va bien, merci. Elle s'appelle la Maison Berger Paris, désormais. Merci d'être venu nous en parler, Olivier Sillon.
La France bouge avec Raphaël Duchemin, c'est tous les jours entre 12h30 et 14h. Restez avec nous. Dans un instant, on épluche les unes de vos quotidiens de demain. A tout de suite.
Europe Nuit, Marguerite Lefèvre.
Europe 1.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte. Tous les samedis, je vous invite à la table des bons vivants. Et si on se mettait tous au végétal pour bien démarrer l'année, nous allons récolter et cuisiner le panais, un légume bon marché qui nous veut du bien. C'est la saison de la galette, nous allons croquer avec le pâtissier Camille Lesec. Et puis pour partager un gratin dauphinois, nous accueillerons le comédien bon vivant François Berléand. Il ne manque plus que vous.
Retrouvez Laurent Mariotte tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1.
À demain.
De vos quotidiens demain, les vacances sont terminées pour les ministres. Le Figaro revient sur le Conseil des ministres de rentrée qui s'est tenu ce matin à l'Élysée. Macron exhorte ses ministres à poursuivre ses réformes, nous dit le quotidien. Le président a rappelé l'importance d'obtenir plus de concret dans la vie quotidienne des Français. Un état d'esprit résumé par Benjamin Griveaux. Nous devons aller encore plus loin dans le changement. Fin de citation. Médias et gilets jaunes, le grand fossé, c'est la une de Libération. Les télés, les radios, les journaux sont accusés d'être au service du pouvoir. Les gilets jaunes préfèrent organiser leur propre communication sur les réseaux sociaux. Après avoir campé un mois dans les studios des chaînes d'info, écrit Laurent Geoffrin dans son édito, Les Gilets jaunes fustigent désormais la censure du système et la docilité des médias envers Macron. Les métiers du futur, à la une du Maine Libre, le quotidien régional sort un dossier sur ces nouvelles professions qui se multiplient dans la Sarthe. Ingénieur en réalité virtuelle, dessinateur de conférences ou encore responsable de bien-être. Une double page qui pourrait faire naître des vocations, c'est dans le Maine Libre. Quant à La Croix, le quotidien prend de la hauteur, direction le ciel et ses mystérieuses éclipses. L'année 2019, nous dit le quotidien, sera de nouveau marqué par des éclipses de lune et de soleil. Dossier spécial sur ces phénomènes qui intriguent et qui fascinent. Voilà pour la presse de demain. Il est 22h30, une toute dernière info avant de nous quitter, c'est du foot. Nantes mène désormais 3-1 face à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. 3-1 à 10 minutes du coup de sifflet final. Il est 22h30, Europe Nuit s'est terminée, passez une excellente soirée. Tout de suite, c'est la libre antenne de Sabine Marin. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Marguerite, vous êtes d'une ponctualité extraordinaire.
C'est pile au carillon, 22h30 tout pile.
Et on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.